I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cher journal, voici déjà près d'une semaine que la France est assiégée. L'ennemi rôde, invisible et prolifique. Non, je déconne. À défaut de sortir des épisodes à cause du confinement, Covid-19 oblige, on a improvisé des petites capsules de recommandations culturelles pour vous. Ma sélection est plutôt éclectique, mais mes recos, elles ont tout en commun l'extimité. Alors déjà, je vous recommande deux podcasts. Tout d'abord La Fièvre, qui est produit par le collectif Archives LGBTQI, sous une proposition de Nora Benaroche Orsoni. C'est un podcast qui a trois flux. Donc Les Nuits Queer, Comment Devenir Lesbienne et Le Feuilleton des Luttes. Les Nuits Queer, c'est vraiment une conversation intimiste entre deux personnes qui font une sorte d'analyse croisée, de retour sur expérience en fait, de ce que c'est que leur nuit queer, souvent parisienne du coup. Où il est souvent question, en tout cas parfois, de performance de la séduction, des identités. Les Nuits Queer sont un peu vues comme des espaces safe, donc des espaces refuges, parfois un peu trop labellisé parce que tendance, etc. Et j'ai vraiment aimé en fait ce côté où ces deux personnes qui sont concernées, qui se racontent et où il y a un croisement en fait des vécus et on en apprend beaucoup. Comment devenir lesbienne pour le coup, donc ces deux femmes qui racontent comment elles sont devenues lesbiennes, comment elles tendent à le devenir. Il y a vraiment un écart au niveau des âges, des expériences, de la race sociale. Et c'est intéressant de voir en fait comment on s'approprie les codes d'une sexualité, d'une culture, d'une sous-culture, etc. Et ça interroge le centre des marges même elles-mêmes. Et comment en fait à l'intersection de ces identités-là, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement d'être lesbienne, d'incarner en fait le fait d'être lesbienne. Et enfin, le feuilleton des luttes, donc c'est le retour sur des luttes avec un zoom sur une personne clé. Il y a deux épisodes, en fait ça nous permet de prendre du recul par rapport à comment nos luttes sont situées et contextualisées, et que nos aînés ont fait le taf aussi, que voilà, nous on continue sur leur chemin quoi. Code Switch, donc c'est le second podcast que je vous propose. C'est un ancien blog à la base qui est devenu un podcast en 2016 qui est présenté par Shireen Marisol Meraji et Jen Denby, deux journalistes racisés. Jen Denby est afro-américain et Shireen Marisol Meraji est une femme latina. Les deux journalistes abordent les questions de la minorité et questionnent les majorités. Donc avec le prisme de la race, de la culture et des problématiques donc liées à la diversité des identités. Par exemple, le dernier épisode que j'ai écouté, qui m'a marqué, c'est celui sur l'empathie et comment en fait, en tant que personne racisée qui subissons le racisme, on a toujours besoin de prouver qu'on vit des choses qui sont discriminantes et que souvent les personnes blanches ne le comprennent pas parce qu'elles ne le vivent pas. Pour le comprendre de leur côté, elles ont besoin de se mettre en empathie, elles ont besoin de vraiment ressentir ce que c'est, et du coup les deux journalistes questionnent en fait cette empathie-là, ce besoin de se mettre dans la peau d'une personne noire en passant par le blackface, et apparemment c'est vraiment quelque chose d'assez commun aux États-Unis, notamment dans la littérature en fait, des romancières qui se sont grimées en noir pour comprendre ce que vivaient les femmes dans le sud, dans le Mississippi quoi, les femmes noires. Voilà, plein de thématiques, par exemple sur le fait d'être latinx, ce que ça veut dire que d'être une personne LGBTQI sous Trump, etc. Enfin voilà, plein de thématiques très très intéressantes. Non. En termes de livres, je vous recommande le l'essai Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire de Mabulasu Maoro, qui est sorti cette année, en 2020. Ce qui est intéressant, c'est que Mabulasu Maoro, qui est donc docteur en civilisation du monde anglophone et spécialiste en études africaines, américaines et de la diaspora noire, en fait, dans son essai, elle dit « je ». En tant que femme, c'est déjà politique, elle choisit d'être noire et non plus d'y être assignée. Elle dit « je » en tant que chercheuse, donc c'est subversif. On peut pas faire plus subversif dans le monde de la recherche, car c'est déjouer en fait l'hypocrisie qui, dans la recherche, qui se veut totalement distanciée de son sujet d'étude, totalement désincarnée. Et Mabulasu Maoro, en fait, elle fait cet aller-retour constant entre son « je » qui s'inscrit dans une histoire personnelle de femme noire dont les parents sont ivoiriens, mais elle qui est donc française, née en France. Voilà, elle fait un retour constant entre son histoire avec un petit H et celui inscrit dans la grande histoire. Elle interroge les rapports intimes par rapport au corps, en fait. Qu'est-ce que c'est que d'être un corps noir, un corps racisé? Qu'est-ce que c'est que le rapport à la langue dite maternelle quand ta mère ne parle pas la langue dans le pays qui t'a vu grandir? Qu'est-ce que c'est que d'être une chercheuse qui veut faire passer un sujet d'étude qui lui est refusé du fait de son corps noir? Enfin voilà, il y a plein de thématiques comme ça et on en apprend beaucoup aussi sur ce que c'est que faire partie d'une diaspora, qu'est-ce que c'est que ce triangle en fait donc qui relie l'Afrique, la France et les Amériques. Et moi je me suis vraiment reconnue aussi en tant que diplômée de sciences sociales sur cette injonction à la distanciation et le fait de ne jamais dire « je » en France, encore moins quand on est une femme noire et qu'on a pour sujet d'étude un objet en fait qui se rapproche de qui on est en fait. Et forcément bah, ça ouvre plein de champs de réflexion. Le second livre que je vous propose c'est celui de Joyce Sorman, Boys, Boys, Boys. C'est un roman sorti en 2005. L'autrice, par sa narratrice en fait, fait un petit plan séquence de son enfance, son adolescence et s'arrête à un moment sur sa vie de jeune femme et de femme. Et cette narratrice-là, en fait, elle est lesbienne du camp adverse, celui de l'ennemi, du patriarcat, des hommes. Et en fait, elle assume totalement cette traîtrise envers le camp des filles, des jeunes femmes et des femmes, où, selon elle, la parole y est trop intime, trop émotionnelle, trop silencieuse et silencieuse. Elle recherche une parole virile, où l'on joue à y croire, où en fait les émotions sont exacerbées dans les débats, une certaine fièvre que les hommes ont dans les discussions. Elle nous emmène dans son envie à vouloir verbaliser même les idées les plus stupides, à être dans cette érose de la discussion que les hommes ont, selon elle. Au cours de la lecture, on se rend compte que c'est la narratrice qui, elle, détient l'érose de la discussion et du partage. Et en fait, elle a vraiment des mots fleuves. Dans la tête de la narratrice, on jouit en fait d'avoir ce female gaze, donc ce point de vue de femme, certes qui est conditionné par le trope « les filles c'est nul, je me suis jamais entendue avec les filles, je préfère les garçons, machin », mais on se rend compte qu'elle observe en fait, elle analyse ces hommes-là qui sont dans leur milieu, qui se complaisent dans leur milieu et dans leur relation, et qu'à travers la narratrice, on en apprend, en tant que femme, on en apprend d'elle en fait, et pas d'eux. En soi, bah, ce qui me parle, moi, là-dedans, c'est « like, I've been there, I've done that », l'élanement du groupe des filles pour être plus avec les mecs. Voilà, il y a une sociabilisation comme ça quand t'es une jeune fille. En tout cas, souvent dans le milieu universitaire, où y a souvent plus de mecs selon la filière dans laquelle t'as été. Donc moi, la sociologie, c'était clairement ça. Et tu te rapproches de ce vire-là pour essayer toi aussi de pénétrer, et le mot est très important, de pénétrer en fait l'espace de parole et de vouloir t'imposer, etc. Bon, au fur et à mesure, après, t'apprends qu'au final, y a autre chose qui se joue. Mais c'est très intéressant de pouvoir avoir son insight. Qu'à travers la relation qu'elle a aux hommes, sa vision du couple, de l'expérience de la vie, en fait, elle questionne, en tout cas où elle fait le constat, de plein de problématiques sur le genre, les masculinités, les féminités, la parole, le vire, la volonté, l'individuation. Voilà, ça m'a beaucoup parlé. Non. En ce moment de confinement, un peu de légèreté, ça ne fait pas de mal. Moi, j'ai toujours été fan de psychologie sociale. Les téléréalités, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Après, celle française, je trouve, je sais pas, j'accroche pas trop, mais en tout cas, celle-là, j'ai bien aimé. Donc, elles sont toutes les deux sur Netflix. Elles sont sorties en 2020. Donc, The Circle, c'est une dizaine d'épisodes. C'est présenté par une humoriste noire, qui est donc Michèle Buteau. Je pense que c'est grâce à elle que j'ai un peu kiffé l'émission tout le long, parce qu'elle est vraiment, vraiment pétée à chaque fois. Donc, il y a 8 candidats donc, qui sont dans un appartement, qui ne quitteront que à leur élimination ou quand ils auront gagné, en fait, le jeu, quoi. Donc, le gain, c'est 100 000 balles à la clé. Ils n'ont pas de communication externe. Elles communiquent uniquement via une application, donc qui s'appelle The Circle, qui transforme leurs paroles en fait en messages écrits. Ils ont la possibilité de voir leur profil, etc. Donc en fait, voilà, le jeu, c'est de se dire, est-ce que vous êtes prêt à changer votre personnalité? Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu des réseaux sociaux, à être totalement fake, pour gagner 100 000 dollars? Et en fait, la possibilité, c'est qu'il y a des personnes qui sont des catfish, en fait, voilà, qui se créent des faux profils, et c'est intéressant, c'est vraiment un peu comme Black Mirror, mais version live, version réseaux sociaux, et ouais, forcément, enfin voilà, c'est de l'interaction avec des humains, quoi. Ce que j'ai aimé, c'est le côté où il n'y avait pas de drame inutile, c'était plutôt des gens sincères, mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y avait pas assez de drama, voilà. Paradoxe. Mais je pense que c'est lié aux heures de montage. Enfin, là, il fallait laisser, voilà, que l'essentiel. Ils ont vraiment choisi le fait de laisser le côté positif et humain des gens. Et enfin, la seconde émission, Love is Blind, Netflix aussi, une dizaine d'épisodes, des personnes vont en date, en fait, sans jamais s'être vues. Et là, bah, là ça m'a parlé, parce que psychologie affective, on invite des gens, en fait, à suivre le processus, genre, du choix de son partenaire de vie, la personne qu'on pourrait marier, avec qui on pourrait, like, commit, enfin, s'engager pour la vie, quoi, enfin... C'est très américain et en même temps, il y a ce côté où on fait un pas en avant, c'est-à-dire qu'on enlève un sens, celui genre primordial en fait, dans une rencontre, dans toutes les rencontres en fait, celui de la première impression, voir une personne, sa gestuelle, etc. On annule ça, mais en même temps, on le fait de manière supra-extime, quoi, enfin, à travers une émission où tout le monde nous voit, où on est influencé d'une manière ou d'une autre par des personnes qui vivent aussi à peu près la même chose, qui, elles, peuvent avoir un crush aussi sur la personne dont avec qui on a un feeling, etc. Donc, enfin, c'est très intéressant de voir ces interactions. Et c'est cool de pouvoir prédire ou de miser qui va se mettre avec qui, de deviner les traumas de certains, etc. Enfin voilà, moi c'est mon petit jeu. Et ce que j'ai pas trop aimé, évidemment, c'est bah, l'hétérosexualité everywhere. Il n'y avait pas de couple autre qu'hétéro. C'était un peu boring, c'était un peu ennuyant. Et aucun physique qui sortait des canons de beauté, quoi. Ils étaient, enfin voilà, un peu love is blind, mais en tout cas la production, elle, ne l'était pas du tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se donne rendez-vous dimanche prochain avec les recos culturels d'Anthony. Prenez soin de vous, mais restez chez vous.
C'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées.
Un podcast natif indépendant créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons afin que l'aventure continue.
Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actus.
Merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.